Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 152 pour un spécial garde à vue. Alors, la garde à vue, qu'est-ce que la garde à vue? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous risquez quand vous êtes en garde à vue? Quoi faire et ne pas faire? L'avocat, le médecin, les tactiques, les abus possibles, la nuit, les conséquences et autres. Ça peut malheureusement arriver, y compris dans l'environnement familial. Vous avez une accusation de votre ex ou de votre enfant, ou alors vous vous êtes mal comporté avec votre ex ou votre enfant. Enfin bref, savoir ce qu'est une garde à vue en France au 21e siècle et comment ça se passe fait malheureusement partie de la panoplie des choses utiles à savoir. Aujourd'hui, nous avons pour nous expliquer tout cela Maître Tapiero du barreau de Marseille, qui a notamment travaillé avec la CALPA. Vous le connaissez, Maître Tapiero est intervenu déjà ici plusieurs fois et vous pouvez le retrouver sur tapiero-avocat.com. Allez, c'est parti, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3 aujourd'hui avec Maître Tapiero pour parler de la garde à vue. Qu'est-ce qu'une garde à vue et en quoi cela consiste-t-il? Maître, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, pour répondre à votre thématique, la garde à vue est une mesure de contrainte policière qui consiste à, quand vous avez des indices qui présument que vous seriez rendu coupable d'une infraction, de pouvoir effectivement vous placer en contrainte policière. D'accord, ça ne veut pas dire qu'à ce stade-là, vous êtes coupable de quoi que ce soit. Ça veut dire que vous êtes présumé innocent, bien sûr. Mais ça veut dire que, on a des bonnes raisons de penser que vous êtes impliqué dans quelque chose de pas net. Et on a besoin de vous appréhender pour vous poser quelques questions. En gros, pour faire très, très, très simple.
Donc, en fait, c'est une mise à disposition où on vous annonce, on vient vous chercher ou on vous fait venir? Comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs cadres d'enquête. Il y en a trois, au moins. La première, c'est l'enquête de flagrance. La seconde, c'est l'enquête préliminaire. Et la dernière, si vous êtes dans le cadre d'une information judiciaire. Ça, c'est les trois cadres procédurales dans lesquels, on va dire génériques, dans lesquels une garde à vue peut intervenir. Les deux premières sont sous l'autorité d'un procureur, la troisième est sous l'autorité d'un juge d'instruction. Dans le cadre de la mesure de garde à vue, effectivement, vous avez un certain nombre de droits. Vous avez le droit de effectivement bénéficier d'un avocat, de faire prévenir votre employeur, si vous êtes de nationalité étrangère, de faire prévenir votre consulat ou ambassade. C'est un droit également de faire prévenir votre famille, voire de la contacter directement sous l'aval de l'OPJ qui gère la garde à vue, voire un médecin, ça je vous l'ai dit. Et donc, à partir de là, dès le stade du début de la garde à vue, il est bien évidemment nécessaire, une notification de droit vous est remise dans une langue que vous comprenez, et il est bien nécessaire de faire usage de tous ces droits. Voilà, vous allez rentrer dans une phase où vous êtes contraint, vous n'avez pas le droit de quitter les locaux de police, vous êtes généralement la plupart du temps dans une geôle, hors cadre d'audition où effectivement vous vous retrouvez dans un bureau avec un OPJ, puis éventuellement un interprète si vous ne parlez pas français, et puis c'est une période de 24 à 48 heures pour les gardes à vue de droit commun qui commence. Voilà, si vous êtes dans des régimes dérogatoires de garde à vue, de type stupéfiant, criminalité organisée, ça peut être 96 heures. Si vous êtes dans des ultra exceptionnels, c'est-à-dire qu'on suspecte une infraction terroriste, ça peut monter jusqu'à 144 heures. C'est-à-dire si je vois dans le droit commun, c'est toutes les infractions de base. Et effectivement, dans ces cas-là, vous êtes parti pour au moins 24 à 48 heures.
Alors, en fait, imaginons la situation ainsi. On vous annonce que vous êtes en garde à vue. On vous demande si vous voulez un avocat. On vous demande si vous voulez contacter des gens. Par contre, une fois que cette demande a été répondue, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Si vous avez dit non, c'est trop tard.
Non. Bien sûr que non. À toute étape, alors ça, c'est toujours un jeu des fois avec les enquêteurs. Mais dans l'idée, à tout moment, vous pouvez déclencher vos droits. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez dit au début de votre garde à vue, vous voulez pas d'avocat, que au bout d'un certain temps, vous pouvez pas lors de vos auditions suivantes demander un avocat.
Et si vous avez dit au départ que vous n'aviez personne à prévenir, mais que celle-ci se prolonge, que vous voulez prévenir quelqu'un qu'elle se prolonge, c'est possible ou pas?
Bien sûr, vous pouvez toujours demander à ce qu'un employeur soit prévenu, une famille soit prévenue, etc. à n'importe quel moment, voire un médecin à n'importe quel moment. Il est recommandé de faire usage de tous ses droits dès le début. Maintenant, c'est vrai que par réflexe, les gens ne veulent pas forcément inquiéter leur famille, ne veulent pas forcément prévenir leur employeur parce qu'être en garde à vue, c'est un mauvais espèce. Faire prévenir un avocat, on pense tout de suite à une question de rémunération. Donc, soit on a un avocat de famille ou un avocat déjà qui suit habituellement nos affaires, auquel cas on peut le faire appeler. Il n'est pas susceptible de pouvoir être disponible au moment donné, mais vous avez la possibilité d'avoir un avocat dans tous les commissariats de France et de Navarre, et toutes les gendarmeries d'ailleurs. Vous avez la possibilité d'être assisté par un avocat commis d'office qui sera donc pas à votre charge financière.
Donc, on voit que vous êtes en garde à vue, on vous demande si vous voulez prévenir quelqu'un, si vous êtes un avocat, puis après vous descendez, on vous enlève vos affaires, vos lacets, vos chaussures, la ceinture, les bijoux, tout ce que vous avez qui pourrait être éventuellement dangereux, on fait la comptabilité de ce qu'il y a dans votre portefeuille, on appelle cela fouille,
je crois. Ça s'appelle votre fouille, exactement, bien sûr, on met ça à part.
Et vous êtes à disposition durant 24 heures renouvelables avec.
Exactement.
Et vous ne savez pas à quelle heure il est, vous ne savez pas ce qui se passe, et vous êtes totalement.
Généralement, quand vous êtes hors cas, vous êtes en grise. Parce que vous êtes alcoolisé ou stupéfiant et vous n'avez pas la capacité de pouvoir répondre, auquel cas on retarde les effets de la garde à vue. Sinon, si vous êtes sobre et que vous avez la capacité de pouvoir répondre, effectivement, on vous place en garde à vue à compter de votre arrestation. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes sous contrainte policière, on vous met les bracelets, vous êtes arrêté dans la rue, n'importe quoi, ou on vient vous chercher chez vous. Et à ce moment-là précis, démarre le délai de 24 heures renouvelable jusqu'à 48 heures.
Voilà. D'accord.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Alors, cette question est tellement large que ça va être très difficile d'y répondre. Mais ce qu'il faut faire...
Il ne faut pas se révolter, déjà. Il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas faire de bêtises.
Bien sûr. C'est vrai que ça, déjà, parce que, en fait, dans l'idée, c'est ne pas surajouter à la gravité de la situation. Ça chamboule. Et évidemment, parfois, ça va être très surpris, s'estimer innocent d'un certain nombre de choses, etc. Et du coup, ça peut créer des tensions. Bon, dans tous les cas, il faut rester calme et la tête froide. Ça, c'est une règle d'or. Ensuite, il faut faire usage de tous ses droits. Voilà. Même si vous sentez bien, faut demander le médecin, parce que même si vous êtes en parfaite santé, un sportif de haut niveau, etc., votre corps y subit, votre mental y subit, et avoir un avis médical, c'est toujours utile. À supposer qu'il y ait une incompatibilité par rapport à votre état de santé, etc., le médecin pourra le traiter. Il y a aussi une possibilité de mettre fin à une garde à vue à cause de l'état de santé. Au moins, un transfert à l'hôpital, reprise sous une autre forme plus tard. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est un élément qu'il faut utiliser. L'avocat, c'est toujours utile. Même si on s'estime pouvoir se défendre soi-même, être suffisamment fort, etc., avoir un avis juridique, il faut l'avoir. Même si on n'aime pas les avocats, c'est le moment peut-être d'en voir un à ce moment-là précis. Et puis après, derrière, effectivement, dans le cadre de vos auditions, alors première audition, c'est la grande identité, c'est-à-dire qu'on va prendre toute votre identité. Les auditions suivantes seront destinées à aborder le fond du dossier. D'accord ? Vous n'avez pas ni votre avocat ni vous-même, à ce stade-là précis, d'accès à la procédure. C'est une partie des choses en France qui sont encore, les droits de la défense sont encore un petit peu malmenés. 24 à 48 heures après, en fonction de l'issue des poursuites, que vous soyez déféré au tribunal ou que vous soyez transféré au tribunal pour voir un juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution, vous aurez accès au dossier. Donc, à un moment donné précis, il faut rester assez prudent. Après, en fonction des cas de figure qui se présentent à vous, il y a 1 million de situations différentes. Donc, je peux pas répondre, si vous voulez, à la question de est-ce qu'il faut garder le silence, il faut répondre, etc. Ça dépend
oui,
en réalité
bien sûr,
un
bien
peu
sûr.
du cas d'espèce. Vous avez toutes les bonnes raisons dès le stade de l'enquête, l'OPJ en face de vous, c'est pas forcément un ennemi. C'est quelqu'un qui va être théoriquement enquêté à charge et à décharge. En pratique, ça, c'est un peu plus nuancé. Mais dans l'idée, parfois, vous avez tout intérêt à mettre pied au plancher, à révéler tout ce que vous savez sur une affaire dès le stade d'une garde à vue.
Oui, ça, parfois, c'est la question. L'enquêteur est-il forcément un ennemi?
Oui, alors, c'est clair qu'à un moment donné, vous êtes suspecté. Voilà. Voilà.
Ils sont pas forcément tout le temps très gentils. Ouais.
Non, et surtout, ils ont une bonne raison de vous arrêter parce qu'ils pensent que, il y a des bonnes raisons de penser que vous allez prendre la fuite. Sinon, il y a une alternative qui consiste à vous entendre en audition libre. Voilà, vous êtes pareil, suspecté, mais on vous convoque et on vous dit, tel jour, telle heure, vous allez être entendu. Ce qui veut pas dire qu'une audition libre ne veut pas se transformer derrière en garde à vue. Peut être le cas parfois. Maintenant, voilà, garde à vue, contrainte policière, pression, forcément, on vous met en état de, entre guillemets, vulnérabilité. C'est destiné, c'est encore un petit peu dans la culture, c'est destiné à vous fatiguer. C'est un peu de la culture de l'aveu, même si effectivement c'est pas complètement vrai, mais on est quand même dans cette tendance-là, de vous fatiguer, de vous poser des questions plusieurs fois, de vous confronter éventuellement, voilà, de vous mettre face à un certain nombre de contradictions qui peuvent être les vôtres, et puis pour en venir à conclure une enquête, pour amener un dossier le plus complet possible sur la caractérisation d'une infraction éventuelle à un procureur, voilà, ou un juge d'instruction. La seule différence entre l'enquête de flagrance et préliminaire, c'est que généralement, là, le dossier est très faible. Donc, même si vous n'avez pas accès au dossier, c'est pas très grave. Il n'y a pas grand-chose à part une arrestation, etc. Dans le cadre d'une commission rogatoire avec un juge d'instruction, généralement, des arrestations sont déclenchées quand le dossier est assez épais. quand il y a eu des surveillances, quand il y a eu des écoutes, quand il y a eu effectivement un certain nombre de gens entendus, voilà. Et à ce moment-là précis, on déclenche et on a tout un dossier sur lequel effectivement vous n'avez pas accès, mais on a un certain nombre d'éléments. Donc souvent, l'enquêteur a déjà les réponses, du moins des éléments objectifs de réponse aux questions qu'il vous pose. Mmh. Et là, il faut être encore plus prudent.
D'accord. Imaginons que il y a un malentendu. Vous êtes là pour quelque chose que vous déniez ou que vous découvrez. Alors, il y a une théorie qui dit que non, je suis innocent, j'ai pas besoin d'avocat parce que de toute façon je n'ai rien à cacher. Une théorie qui dit que c'est mieux, d'autres disent non, vous êtes face à des gens qui parfois ont un peu des tactiques et éventuellement certains abus possibles, il faut systématiquement un avocat, que vous soyez coupable ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que de toute façon, l'avocat, demander un avocat, c'est pas forcément préconfiguration d'un aveu de culpabilité. Il y a des gens qui sont dans cette logique, j'ai pas besoin d'avocat, je suis innocent, je vais pouvoir vous expliquer les choses moi-même. Sauf que ça peut être une forme d'honnêteté intellectuelle de raisonner comme ça, mais dans tous les cas, il est vivement recommandé à un moment donné, quand vous êtes sous contrainte policière, de vous munir d'un certain nombre d'éléments de défense. Voilà. Peu importe votre situation, peu importe l'axe de défense ou la position qui sera la vôtre dans un dossier, à un moment donné, vous êtes sous contrainte policière, vous allez avoir des moyens d'enquête qui vont être développés contre vous. Il est tout à fait légitime. Le pendant, c'est de pouvoir bénéficier, vous, d'une défense et de pouvoir être conseillé ou au moins informé de ce qui se passe autour de vous.
Voilà. Donc, en garde à vue, on est en position, effectivement, de suspect, on est en défensive. On est clairement face à des gens en opposition.
D'accord. Bien sûr. Ouais. Vous êtes suspecté. Dès que vous êtes en garde à vue, vous êtes suspecté d'un méfait. Voilà. Donc, clairement, et vous êtes sous contrainte policière. Et vous savez pas quand est-ce que cette phase-là va s'arrêter. Parce que ça peut être 24-48 heures, vous êtes déféré devant un procureur. Ça peut être effectivement remise d'une convocation à comparaître au tribunal dans 6 mois et en placement sous contrôle judiciaire. Ça peut être aussi une comparution immédiate. Ça peut être aussi l'ouverture d'une information avec le risque effectivement d'avoir une détention provisoire qui peut être prononcée en fonction de la gravité de la situation. Donc, en fait, à partir du moment où vous êtes sous contrainte, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas du tout l'orientation du dossier que donnera le procureur, et procédural et en termes de suite judiciaire.
D'accord.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
L'avocat, qui c'est qui le paye?
Alors, vous êtes au stade d'une garde à vue. Techniquement, vous demandez un avocat sera mobilisé, désigné par le bâtonnier sur une liste, s'appelle la commission d'office, et effectivement, vous n'aurez pas à régler cet avocat-là, même s'il y a effectivement une déclaration à remplir, etc. Vous voyez ça avec votre avocat sur le moment donné, mais ça fait partie de ce qui s'appelle la J-garantie. Vous êtes de droit bénéficiaire d'une défense automatique. D'accord. Vous voulez désigner votre avocat personnel ou que vous connaissez ou non, effectivement, c'est aussi une possibilité. Après, à ce moment-là précis, effectivement, vous devez effectivement voir avec votre avocat la question de la prise en charge que vous allez lui devoir.
D'accord. Voilà. Est-ce que l'avocat que vous choisissez peut être à l'aide juridictionnelle?
Tous les stades, il peut demander effectivement, il peut déposer un dossier d'aide juridictionnelle pour citer dans le cadre de la procédure.
D'accord. Non, parce que moi, j'ai un cas où l'avocat de la partie a dit non, vous devez me payer ou alors vous en prenez un d'office parce que l'AJ n'est pas possible durant la garde à vue.
Alors, effectivement, l'AJ, c'est la commission d'office qui prend en charge cette partie-là. Donc, effectivement, à ce moment-là précis, c'est ça qui prend en charge. À partir du moment où vous désignez un avocat, effectivement, il faudra être en capacité de le payer. D'accord. Plus tard, en fonction de vos revenus, dans la suite de la procédure...
Donc, c'est là où je voulais en venir, en fait. Vous avez un avocat commis d'office que vous ne choisissez pas. Si vous voulez le choisir, c'est à vos frais.
Bien sûr. Bien sûr. Mais l'avocat, normalement, après, en fonction de vos conditions de ressources, pourra déposer une demande d'aide juridictionnelle dans la suite qui sera celle de la procédure.
Oui, pour la suite de la procédure. D'accord.
Voilà.
Ok. Ouais. Ça veut dire que l'avocat sera avec vous durant les auditions?
Alors normalement, dans les règles de l'art, l'avocat intervient 30 minutes avec vous dans la première phase des 24 heures. Et à chaque phase de 24 heures, vous avez un entretien de 30 minutes avec votre avocat. 30 minutes étant la durée maximale. Très peu besoin de 30 minutes complètes. Hein. Généralement, c'est des échanges assez basiques, sauf cas où est fait un peu plus exceptionnel, qualifié de nature criminelle, où effectivement il faut peut-être sonder beaucoup plus la personne, avoir un degré d'anticipation peut-être un peu plus élevé, mais généralement le rôle de l'avocat consiste à se présenter à vous dans les deux heures au moins de carence. Après, derrière, vous rappelez les droits de la personne qui est mise en cause, prenez sa version des faits, vous indiquez quels peuvent être déjà le degré d'information que peut avoir un enquêteur sur un dossier, et puis vous essayez des déjà au jugé, avec l'expérience qui est la vôtre, de pouvoir conseiller la meilleure position. Des fois, il est stupide de nier l'évidence. Voilà. Et à ce moment-là, il est, par rapport au casier, par rapport à plein de choses, il est plus recommandé d'aller dans le sens du dossier. Pas nier les évidences forcément, parce qu'à la fin, ça devient un peu compliqué après à défendre. Parfois, effectivement, la nuance, elle est un peu plus difficile et à ce moment-là, il faut faire œuvre de prudence. Voilà, c'est le déroulé des questions qui vont vous informer sur l'état de situation d'un dossier.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Quelles sont les tactiques utilisées ? Est-ce qu'on peut essayer d'influencer vos réponses ?
Bien sûr. Alors, théoriquement, non. Théoriquement, non. Vous avez un avocat en plus. Le fait d'avoir un avocat en garde à vue, ça veut dire que vos réponses, elles seront qualifiées d'encore plus fiables parce que vous avez pu bénéficier d'un conseil qui a pu relire avec vous, qui a pu s'entretenir avec vous, etc. Donc, clairement, non. Normalement, l'avocat n'intervient pas, peut, à la fin de chaque audition, déposer des observations écrites, voire faire poser des questions. C'est le seul moment où l'avocat peut intervenir. Bon, après, il y a souvent un jeu de off avec l'enquêteur où tout n'est pas forcément retranscrit, où il y a quand même un certain degré de discussion qui peut s'installer, y compris avec l'avocat. Voilà, tous les OPJ ne sont pas tous fermés. On peut avoir aussi, voilà, y a généralement des questions qui viennent dans l'ordre. Généralement, ces questions sont loyales. Parfois, effectivement, il peut y avoir des questions qui tendent à, on va dire, à essayer de pointer vos contradictions. Voilà. Mais normalement, le travail de l'enquêteur, c'est un travail qui doit s'exécuter de manière loyale, y compris sur les questions.
C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut faire reformuler votre réponse pour qu'elle aille dans le sens qui lui convienne ?
Non.
Est-ce qu'elle peut marquer que la moitié de votre réponse ?
Non plus, c'est interdit. Sinon, vous refusez de signer, vous pouvez, votre avocat à côté de vous, formule des observations en ce sens-là. Non, les réponses qui sont actées, clairement, c'est les réponses que vous avez données. D'où l'intérêt à la fin d'avoir une relecture attentive, vous et a fortiori votre avocat, pour pointer que vos réponses sont exactement celles que vous avez données. Et si, à un moment donné, vous rentrez en conflit en disant « Non, vous avez marqué, vous avez retranscrit ça, moi, je n'ai pas dit ça, je ne signerai pas ça », vous refusez de signer le PV, votre avocat fait des observations en ce sens-là et vous marquez l'incident. Généralement, ce n'est pas ce qui se passe. Généralement, c'est fidèle aux déclarations de la personne. Il faut quand même faire attention parce qu'un mot, le sens des mots à ce moment-là précis, sur une audition qui peut durer une heure, vous allez peut-être des fois avoir 3-4 pages de PV. Des fois, à la fin, on est fatigué. On peut avoir tendance à dire « Bon, ben voilà, la phrase là, c'est à peu près le sens que j'ai voulu donner ». Non, il faut rester vigilant jusqu'à la fin. En tout cas, c'est le rôle de votre avocat à ce moment-là précis, de relire précisément pour voir exactement pointer ce que vous avez, le sens que vous avez voulu donner. Vous avez des gens qui parlent français, mais ils ont un français approximatif. Et à ce moment précis, le sens de vos réponses et l'interprétation qui peut en être donnée, chaque mot a un poids.
Est-ce qu'il y a des abus possibles, des choses qu'il ne faut pas accepter ?
Toute forme d'humiliation, toute forme de pression psychologique de type « ta famille va le savoir », toute forme de tout ce qui peut s'apparenter à une forme de déloyauté. Voilà, ça se sent. Tout ce qui peut effectivement être de l'ordre de du non acté, du off un peu voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut refuser. Qu'on soit très clair, une garde à vue, ça restera un temps de contrainte sur lequel on met une pression sur une personne. Voilà. Et donc à partir de là, effectivement, on a les belles questions qui sont posées par rapport au dossier, etc. Et puis, des fois, la personne peut se raccrocher, poser des questions même à l'enquêteur, mais il risque de m'arriver quoi, etc. Et à ce moment-là précis, on peut avoir des réponses qui peuvent avoir tendance à vous influer dans un sens ou dans un autre. Vous avez un avocat à côté de vous, généralement, ça se passe un peu moins. Vous n'avez pas d'avocat, l'OPJ, il va pas retranscrire forcément le off qu'il vous a donné. Il va vous dire, il peut vous donner des bons ou des mauvais conseils. Et à ce moment-là, vous êtes un peu aux prises directes avec quelqu'un qui est quand même en train de vous interroger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait mal son travail, loin de là, c'est pas l'idée. Mais même s'il vous donne des conseils, etc., ça restera le conseil de quelqu'un qui, effectivement, travaille sur un dossier.
Oui.
Et dont le but est une caractérisation d'une infraction.
Qui essaie de gratter pour avoir un aveu.
Soit gratter pour avoir un aveu, mais en tout cas non, tout simplement qui fait son travail et qui, à partir d'une situation X, Y, Z d'infraction, va poser des questions et va orienter son dossier pour essayer effectivement. Le but du jeu, c'est avoir votre position par rapport à des faits. Et effectivement, l'aveu étant la clé de ce type de temps de justice.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Et est-ce qu'on peut vous garder pour le plaisir ? Par exemple, si on a 24 heures autorisées, on va utiliser les 24 heures alors qu'on ne sont pas forcément utiles.
Alors, ça, c'est... non. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est plutôt pratique. 24 à 48 heures, c'est bon. C'est, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, vous êtes interpellé par des services enquêteurs qui sont tournants. Voilà, il y a la nuit, la journée, l'écart. Donc, si vous voulez, entre le moment où vous êtes appréhendé et le moment où vous allez effectivement être interrogé, vous allez pouvoir être interrogé. Généralement, c'est le même service enquêteur qui travaille sur vous, mais vous allez pouvoir être interrogé à différentes phases de la journée. Le dossier va circuler d'un enquêteur à un autre. Le parquet va pas forcément prendre une décision sur votre libération la nuit. Donc, généralement, quand il n'y a pas d'orientation sur le dossier qui est pris dans les premières 24 heures, généralement, ça peut y avoir une prolongation pour que la procédure soit respectée. Voilà, on prolonge. On va peut-être même plus vous poser de questions de la nuit. Il y aura une prise de contact avec le TTR, c'est-à-dire le service de traitement direct du parquet le lendemain par l'enquêteur. Vous êtes libéré dans la matinée. C'est souvent une question pratique. Voilà,
d'accord, on occupe l'espace. On vous dit que vous allez passer la nuit ou vous le découvrez ?
Ah bah non, on vous tient pas à vous former, non. Alors vous posez des questions, généralement ils vous répondent. Mais non, vous êtes désorienté à ce moment précis. Non, vous arrête, vous voyez plus la lumière du jour, sauf quand vous allez rentrer dans le bureau de l'enquêteur, vous pouvez pas fumer, ou de manière très exceptionnelle, et puis vous êtes, alors, vous rassure, vous pouvez manger et boire, faire vos besoins, mais à partir de là, vous êtes en geôle, dans des geôles qui sont plus ou moins propres en fonction de la qualité de ce qui se passe en commissariat, hein, et puis vous êtes dans une phase d'obscurité pendant, on va dire, au moins 24 heures, voilà. D'accord. Après, ça veut pas dire que quand on arrête quelqu'un, au bout de 6 heures, hein, il peut pas être remis dehors. Ça peut arriver. Ça peut très bien arriver. D'accord. Les services enquêteurs, ils voient très vite une situation. Parfois, ce qui se passe dans certains cas de figure, c'est des arrestations et des gardes à vue qui vont rien donner. Mais sur un moment donné, il y a un certain nombre d'interpellations. On déclenche des interpelles. Et à partir du moment où effectivement l'événement est passé, hop, ce classement, il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir. Ça peut être aussi ce type de technique dans certains événements donnés.
D'accord.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Thématique pour conclure. Quelles sont les conséquences pour la personne, les pollutions éventuelles? Une garde à vue, c'est pas anodin. On vous prend en photo, votre profil, vos trois quarts, vos tatouages et autres. C'est écrit quelque part. Qui peut savoir qu'il y a eu une garde à vue? Qui a accès au dossier? Qui a accès aux informations autour de vous?
Autour de vous, personne. Clairement, tant qu'il n'y a pas un casier judiciaire effectivement qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'une condamnation définitive, personne ne peut le savoir, à part vos proches ou effectivement si vous faites prévenir votre employeur, etc. Maintenant, vous avez des antécédents police. Donc, une garde à vue va quand même, il va y avoir des traces de cet événement dans les antécédents police. Et ça, en fonction de votre métier, par exemple, quand vous voulez travailler dans le domaine de la sécurité, etc., vous avez quand même des enquêtes qui peuvent, il peut y avoir des enquêtes à ce niveau-là précis, et ça peut poser problème pour une carrière, effectivement. Donc, il n'y a pas qu'un effacement du casier judiciaire qui est possible. Il y a aussi, effectivement, des possibilités de faire effacer des antécédents justice, y compris sous l'angle garde à vue, etc.
Qui a accès aux antécédents justice?
Que des administrations particulières.
C'est vous, en tant qu'avocat, par exemple, est-ce que vous avez accès à un système informatique qui permet de savoir, de connaître les antécédents de quelqu'un?
Non. La justice, certaines administrations. Sinon, votre casier judiciaire, personne ne peut le demander à part vous et vous ne pouvez avoir d'ailleurs accès qu'à votre B3.
Et une garde à vue, c'est pas un casier judiciaire?
Non. Quand vous avez un casier judiciaire, ce qui est retranscrit sur un casier judiciaire, ce sont des condamnations pénales définitives.
D'accord.
Pas des antécédents police. Une garde à vue ne donne sur rien, sur un classement ou sur rien. Voilà, on n'a rien à vous reprocher. Effectivement, ce ne sera que dans les antécédents police, dans les fichiers police, mais ce ne sera pas retranscrit sur un casier judiciaire.
D'accord. Imaginons que tout ceci n'est servi à rien, que c'était de la calomnie, en fait, ou alors qu'ils se sont trompés. Il y a des recours. Est-ce qu'on peut se plaindre d'avoir subi ça?
Alors, non, pas à ce stade-là. Alors, ça dépend de ce qu'on vous a fait en garde à vue, bien naturellement. Si vous avez des pathologies particulières et puis vous sortez avec la tête en chou-fleur, etc., vous pouvez dénoncer des violences policières, c'est tout à fait possible, porter plainte. Si une garde à vue tourne au vinaigre et vous-même, vous êtes en danger et qu'on n'a pas pris des mesures médicales pour vous porter assistance, même chose, il y a toujours des dépôts de plainte, voire une responsabilité de l'État qui est possible d'être engagé.
Non, mais on se rend compte plus tard que vous avez été contraint 48 heures pour rien, par exemple. Vous avez un recours ou c'est comme
Alors, non, tant qu'effectivement, il n'y a pas d'acte de poursuite qui a été donné et qu'effectivement il n'y a pas un classement qui est rendu ou une décision de non-lieu ou d'autres formes, si vous êtes attiré devant un tribunal correctionnel, etc., ou autre chose, où il y a effectivement une relaxe, vous ne pouvez pas effectivement vous retourner. Vous pouvez effectivement porter plainte ou agir judiciairement contre une personne qui vous aurait effectivement procédé à une dénonciation calomnieuse. Mais la mesure de garde à vue en elle-même, parce que c'est votre question, j'y réponds précisément, la garde à vue en elle-même, non, c'est une phase d'enquête. On vous soupçonne d'avoir commis une infraction, il y a une phase d'enquête. C'est dans les textes, on applique la loi, on vous appréhende, vous êtes présumé innocent, on vous pose des questions et on enquête sur vous, mais sous contrainte de rester à disposition des enquêteurs pendant 24 à 48 heures.
D'accord, très bien.
L'origine de la dénonciation, effectivement, ou les conséquences d'une garde à vue, etc., il y a des recours possibles. Mais la garde à vue en elle-même, non.
D'accord. Et les amendes, éventuellement, votre voiture a été sur un parcmètre et tout, vous avez pris des amendes durant ce temps de garde à vue. Comment vous contestez les amendes?
Ça, c'est un peu compliqué. Vous payez vos amendes et puis malheureusement, vous n'avez pas d'option possible pour contester quoi que ce soit. Non. Vous devez continuer à payer votre loyer, vous devez continuer à payer vos abonnements. Non, malheureusement, non.
D'accord.
Ce genre de choses.
Très bien. Très bien.
Et c'est pas des questions que pose réellement. C'est pas les premières questions qu'on se pose quand on est en garde à vue pendant 24 à 48 heures.
Je comprends. Mais
Si vous êtes arrêté au volant, généralement, c'est aussi des éléments qui sont mis sous main de justice et vous les retrouvez à l'issue.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Et vous, vous exercez à Marseille, on peut vous trouver, vous avez
on
un site internet.
Sur internet. Oui, bien sûr.
Donc, Thomas Tapiero.
Exactement, avocat au barreau de Marseille.
Très bien. Merci, maître. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci. Au revoir.
Voici maintenant la chanson de la semaine.
Famille, justice, enfance.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.